gratuit de France Culture. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique.
Je ne suis pas un homme de lettres ou de sciences, je prétends humblement être un homme de prière, disait Gandhi. C'est la prière qui a sauvé ma vie. Sans la prière, j'aurais depuis longtemps perdu la raison. Si je n'ai pas perdu la paix de l'âme, malgré toutes les épreuves, c'est que cette paix vient de la prière. On peut vivre quelques jours sans manger, mais non sans prier. La prière est la clé du matin et le verrou du soir. Ces paroles du Mahatma n'auraient peut-être pas convaincu Gustave Courbet, le communard, pour qui prier n'était tout bonnement qu'une perte de temps. Quoi qu'il en soit, un peu partout sur cette terre, on prie, et ça ne date pas d'hier. Alors, en 1981, sur France Culture, pour l'autre scène où les vivants et les dieux, Jacqueline Kellen proposait de nous interroger sur le sens de cette pratique, commune aux croyants de toute religion et à bon nombre d'athées.
Rien de plus beau qu'une femme qui prie.
L'autre scène, où les vivants et les dieux.
Trois sortes d'âmes, trois prières. Je suis un arc entre tes mains, Seigneur. Tends-moi, sinon je pourrirai. Ne me tends pas trop, Seigneur. Je casserai. Tends-moi tant que tu veux, Seigneur. Et tant pis si je casse.
La prière par Jacqueline Kellen et Olivier Clément, écrivain. Jean-Pierre Dubois-Dumay, journaliste. Khaled Roumeau, étudiant. Et Claude Viget, écrivain.
Je crois que nous nous trouvons devant une prière beaucoup plus libre, beaucoup plus spontanée, beaucoup plus marquée par l'Orient, une prière plus universelle. Il y a quelque chose qui certainement est en train de bouger dans ce domaine à l'heure actuelle.
Tenter d'être chrétien, c'est être d'une manière ou d'une autre sans cesse en relation avec Dieu. Et c'est probablement cela la définition la plus simple de la prière.
Prier, c'est s'exposer face à Dieu pour un jugement. Prier, c'est donc oser provoquer le jugement de Dieu.
Selon l'islam, le mot c'est dhikr, c'est-à-dire se remémorer le nom de Dieu. Alors chaque fois qu'il le fait, il prie en dehors des heures de prière rituelle.
Seigneur, je rentre fatigué, seul et très morne. Ma chambre est nue comme un tombeau. Seigneur, je suis tout seul et j'ai la fièvre. Mon lit est froid comme un cercueil. Seigneur, je ferme les yeux et je claque des dents. Je suis trop seul. J'ai froid. je vous appelle. 100 000 toupies tournoient devant mes yeux. Non. 100 000 femmes. Non. 100 000 violoncelles. Je pense, Seigneur, à mes heures malheureuses. Je pense, Seigneur, à mes heures en allées. Je ne pense plus à vous. Je ne pense plus à vous. Blaise Cendrars.
Après quelques dizaines d'années, pendant lesquelles, dans les milieux catholiques, l'accent a été mis très fortement sur l'engagement, eh bien, maintenant, on se dit, l'engagement, c'est bien, mais peut-être que ça n'est pas le plus spécifique de l'identité chrétienne. C'est-à-dire que l'engagement est une nécessité. Je me réjouis pour ma part qu'on ait rappelé que, par exemple, enfin, une méditation très belle mais non vécue ne signifiait pas grand-chose, que la foi sans les œuvres, c'est pas grand-chose, etc. Mais peut-être a-t-on un peu oublié, en contrepartie, que les œuvres sans la foi, c'est pas grand-chose non plus. Vous avez peut-être remarqué que très souvent, on dit « il ne suffit pas de prier », c'est même le titre d'un film. Mais je n'ai jamais entendu dire « il ne suffit pas d'agir ». Et en réalité, les deux sont vrais. Plus profondément, c'est un besoin permanent de l'homme qui se réexprime à l'heure actuelle, parce que pour moi, ce retour vers la prière est quelque chose du même ordre un peu que l'écologie, si vous voulez.
Jean-Pierre Dubois-Dumay.
Dans une civilisation de quantité, c'est un des aspects du besoin de qualité. Quelque chose de gratuit. Dans une civilisation de consommation, mais pas seulement, plus encore que de consommation, de convoitise, c'est la liberté totale, c'est la gratuité totale. Dans une civilisation de bruit, c'est le besoin du silence, que l'on trouve aussi sous d'autres formes, dans le retour à la nature, enfin, etc. Bref, je crois qu'il y a là un besoin profond, permanent, mais qui devient très fort en ce temps. Et moi, je suis très frappé de voir comment, à l'heure actuelle, des gens comme Valéza, dont on parle tellement, mais pas lui seulement, le prix Nobel de la paix cette année, hein, Adolfo Pérez Esquivel, presque dans les mêmes termes, disent que leur action leur paraît impossible, que leur seule force, que le secret de leur force, hein, c'est réellement la prière. Et la prière et la foi, puisqu'ils ne prieraient peut-être pas facilement s'ils n'avaient pas la foi. Donc c'est là le secret de leur force. Voilà des gens qui touchent l'opinion publique à l'heure actuelle, énormément, vous voyez, et qui affirment avec la même tranquillité ce qu'autrefois on n'aurait peut-être pas dit avec autant d'audace ou de facilité.
Il y a dans la prière une opération magique. La prière est une des grandes forces de la dynamique intellectuelle. Il y a là une récurrence électrique. Baudelaire.
Depuis un certain temps, on voit des écoles de prière où on apprend aussi à se servir de son corps pour la prière.
Je suis un arc entre tes mains, Seigneur. Tends-moi, sinon je pourrirai.
On dirait que chez nous, nous avons en quelque sorte minimisé le rôle de notre corps, que nous l'avons rétréci.
Ne me tends pas trop, Seigneur. Je casserai.
Il réduit sur lui-même, enfin comme une pomme trop ridée, si vous voulez, ou comme un fruit qui n'éclate pas assez.
Tends-moi tant que tu veux, Seigneur. Et tant pis si je casse.
J'ai longtemps erré comme une brebis égarée. Je t'ai cherché dans les merveilles que tu as créées. J'ai demandé à la terre si elle était mon Dieu. Elle m'a répondu que non. Je l'ai demandé à la mer, à ses abîmes. Tous les êtres qu'ils contiennent m'ont répondu « Cherchez-le au-dessus de nous ». J'ai interrogé le ciel, La lune, le soleil, les étoiles, toutes m'ont répondu « Nous ne sommes pas votre Dieu. » Maudit soit l'aveuglement qui m'empêchait de te voir. Maudite soit la surdité qui ne me permettait pas d'entendre ta voix. Sourd et aveugle que j'étais, je ne m'attachais qu'aux merveilles de ta création. Je me suis fatiguée à te chercher hors de moi, toi qui habites en moi, pourvu que j'en ai le désir. J'ai parcouru les bourgs et les places publiques et je ne t'ai pas trouvée, parce que je cherchais en vain ce qui était en moi. Mais tu m'as éclairée de ta lumière, alors je t'ai vue et je t'ai aimée, car on ne peut t'aimer sans te voir, ni te voir sans t'aimer. Oh, temps malheureux où je ne t'ai point aimé. Saint Augustin.
Il y a aussi certainement, comme dans d'autres secteurs de la théologie, de la recherche religieuse, le désir de retourner aux sources. Et effectivement, on constate que la prière des premiers chrétiens était elle aussi très très libre, se faisait beaucoup dans des maisons particulières, qui étaient d'ailleurs des églises en même temps, mais enfin qui étaient une autre dimension, quelque chose qui correspond. C'était des groupes de prière, d'une certaine manière, et puis aussi dans les thèmes et les textes même. Je constate que beaucoup de gens prient plus facilement avec des prières des premiers siècles, des grands priants des premiers siècles, des premières générations chrétiennes, qu'avec des prières du 17e et encore plus difficile avec des prières du 18e et peut-être même du 19e. C'est-à-dire que les prières les plus proches ne sont pas réellement profondément les plus proches. Les plus proches sont plutôt, dans ce cas, les plus anciennes.
Il vaut mieux mettre son cœur dans la prière sans trouver de paroles que trouver des mots sans y mettre son cœur. Gandhi.
Et de même qu'on essaie de retrouver le sens des gestes ou des attitudes, de même il y a peut-être un besoin aussi de créer ses propres prières, d'inventer ses propres textes.
Certainement. Je crois qu'il y a toujours eu des prières inventées par les fidèles. Mais on n'en a pas beaucoup la trace parce que ce qui de l'histoire nous reste, ce sont surtout les prières liturgiques. Parce que celles-ci se sont transmises, celles-ci étaient liées à des assemblées dominicales, enfin, etc., etc. Je crois pour ma part que la démarche qui constitue, pour un chrétien par exemple, à prier avec la prière d'un juif, d'ailleurs ça n'est pas toujours très difficile, bien sûr, mais avec la prière d'un musulman, c'est autre chose, avec la prière d'un bouddhiste, hein, et c'est parfois très possible. Je crois que c'est ce qu'on peut faire de plus profond comme démarche vers l'unité, parce qu'on entre dans la peau de l'autre, on prie avec ses propres mots, ce qui est une espèce d'identification, si vous voulez. Et je pense pour ma part que c'est une démarche d'unité très profonde.
Aussi bien la question « Pourquoi faut-il prier » est-elle stupide ? Pourquoi faut-il respirer ? Mais parce qu'autrement je meurs. Kierkegaard.
C'est vrai que la prière est une relation qu'on établit ou qu'on essaie d'établir avec Dieu. Je connais des prières d'incroyants, il en existe, qui sont des prières d'appel à Dieu, mais réponds-moi si tu existes. Et en particulier, il y a tout un livre d'Albert Cohen qui est son carnet, et dont 1978. Et dont toute la deuxième partie sont des grands appels à la prière. Il est de tradition juive, imprégné de tradition juive. Il dit « Je suis un croyant Et il prie, parce qu'il appelle Dieu. Croyez-vous qu'un croyant ne passe pas une bonne partie de son temps à appeler Dieu? Croyez-vous que la prière n'est pas un appel à Dieu? Et cet appel à Dieu, un incroyant peut le faire sous des formes variées, plus ou moins conscientes, mais il peut le faire.
Je n'ai fait qu'une prière dans ma vie. Mon Dieu, servez-vous de moi. Utilisez-moi. Mais Dieu n'a jamais compris quel esclave fort et fidèle j'eusse été. Je n'ai servi à rien. Igmar Bergman, Le visage.
Sans parler spécialement de prières d'appel ou de demande, montre ton visage ou sois présent ou réponds-moi, il peut y avoir une certaine façon d'être bien.
Il y a des prières ordinaires, à ma connaissance, de Madeleine Delbrel, vous savez, qui était une femme qui vivait dans la banlieue ouvrière, très au contact des gens, très engagée, tout point de vue, enfin, etc., et qui a fait une merveilleuse prière dans laquelle elle souhaite danser avec le Seigneur. Non pas sans doute sous la forme matérielle des choses, mais elle dit que sa vie est comme une danse avec le Seigneur. On peut aussi faire la louange du monde, se réjouir de la marche du monde, et il y a cela aussi dans la plupart des religions, en même temps que des difficultés à vivre dans ce monde. On peut très bien connaître ça sans religion, mais je crois que la religion ne fait dans ce domaine-là, à proprement parler, que de la louange du monde, enfin, etc., si vous voulez, qu'ajouter une espèce de dimension.
Est-ce que le sens peut-être profond de la prière n'aboutit pas au silence?
Dans ma chambre, je prie plus rarement et plus sèchement. Mais à l'aspect d'un beau paysage, je me sens émue sans pouvoir dire de quoi. J'ai lu qu'un sage évêque, dans la visite de son diocèse, trouva une vieille femme qui, pour toute prière, ne savait dire que « Oh ». Il lui dit « Bonne mère, continuez de prier toujours ainsi. Votre prière vaut mieux que les nôtres. » Cette meilleure prière est aussi la mienne. Jean-Jacques Rousseau.
Il y a d'abord le silence de Dieu lui-même. Et peut-être quelquefois attend-on trop que Dieu nous parle. C'est une manière de considérer Dieu comme un homme. Dieu ne s'exprime pas par rapport à nous de la même manière que nous nous exprimons par rapport à lui. Il n'est pas nécessaire d'inventer un Dieu qui serait notre correspondant, qui serait notre interlocuteur, si vous voulez. Et la prière n'est pas forcément, dans la mesure où elle est une réalité spirituelle, n'est pas forcément parole, ne s'exprime pas forcément par la parole, elle peut s'exprimer par le silence, c'est-à-dire par l'écoute, c'est-à-dire par la disponibilité, c'est-à-dire par une espèce d'abandon.
Il y a dans la prière une opération magique. La prière est une des grandes forces de la dynamique intellectuelle. Il y a là une récurrence électrique. Pendant toute une semaine, je demeurais dans ma cabane solitaire à réciter chaque jour mes 6000 oraisons, sans me soucier de rien d'autre et sans avoir à lutter contre les pensées. J'essayais seulement d'observer exactement le commandement du Staret. Qu'arriva-t-il? Je m'habituais si bien à la prière que, si je m'arrêtais un court instant, je sentais un vide, comme si j'avais perdu quelque chose. Dès que je reprenais ma prière, j'étais de nouveau léger et heureux. Si je rencontrais quelqu'un, je n'avais plus envie de parler. Je désirais seulement être dans la solitude et réciter la prière tellement je m'y trouvais habitué au bout d'une semaine. Récit d'un pèlerin russe en 1870.
Dans la tradition orthodoxe, il y a une place, je dirais, fondamentale, structurelle, donnée à la prière. Et pour la tradition orthodoxe, l'homme se définit essentiellement comme un être liturgique.
Olivier Clément.
Sa première expérience de la vie spirituelle, c'est la participation à la liturgie, c'est-à-dire à la prière commune. Et ensuite, il est appelé à intérioriser cette prière liturgique par différentes formes de prières personnelles. On me signalait récemment la formation en Russie de ce qu'on appelle un monachisme blanc, par opposition au monachisme traditionnel qui est noir, puisque les moines orthodoxes sont vêtus de noir. Ils sont vêtus de noir parce qu'ils portent le deuil. Ils portent le deuil d'Adam. Ils vivent l'exil d'Adam devant les portes qui se sont refermées du paradis. Ils essaient d'entrer déjà vivants dans la mort pour y rencontrer le Christ vainqueur de la mort et mourant dès ici-bas, ressuscité en quelque sorte dès ici-bas. Mais ce monachisme a presque disparu dans un pays comme la Russie. Je suis très frappé d'ailleurs de voir à quel point, en milieu catholique notamment, certains thèmes de la spiritualité orthodoxe se diffusent à l'heure actuelle, qu'il s'agisse de la prière de Jésus, qu'il s'agisse de l'icône ou même de passages entiers de la liturgie byzantine. Nous avons au fond le goût d'une prière liturgique qui a quelque chose de non individuel. Nous sommes gênés, par exemple, quand dans une célébration, le prêtre, le célébrant, affirme trop son psychisme et nous englue dans son psychisme. Nous aimons que le célébrant s'efface derrière cette espèce de grand fleuve de louanges qui traverse les siècles, qui peut d'ailleurs et qui doit s'enrichir de siècle en siècle, mais qui nous arrive avec une espèce de puissance, de paix extraordinaire qui est dans ce grand fleuve de vie de la communion des saints, de sorte que nous n'avons pas tellement besoin d'inventer des choses nouvelles, mais plutôt, je dirais, de retraduire, de retranscrire d'une manière créatrice des mots qui sont quelquefois des mots anciens, quelquefois des mots moins anciens, mais qui sont pris dans cette grande tradition de l'Église. Et puis, quand vous avez l'habitude alors de prier avec cette louange traditionnel, de laisser la tradition, si vous voulez, prier en vous, alors tout naturellement, dans votre prière personnelle, des mots viennent et vous inventez à ce moment-là des formes nouvelles de prière. Il est bien certain qu'on commencera à prier avec l'invocation traditionnelle à l'Esprit-Saint, le Roi Céleste, Paraclet, viens, fais ta demeure en nous, et puis on pourra enchaîner sur des textes traditionnels que les gens, les petites gens, les gens du peuple finissent par savoir par cœur. Ils savent par cœur, n'est-ce pas? Ils savent chanter tout cela.
Écrire comme forme de la prière.
Il s'agit non seulement de prier, au sens où d'une manière volontariste, on va dire des paroles, entrer dans une sorte de dialogue, n'est-ce pas, avec Dieu, mais au sens où il faut arriver à vivre dans un état de prière. La prière doit être un état. Et même à la limite, on pourrait dire que le monde tout entier est porté par la prière, qu'en chaque chose, il y a une louange, en chaque chose, il y a une célébration, en chaque chose, il y a une tension vers la plénitude, ou si vous voulez, un point vierge où l'homme doit faire jaillir la lumière divine. L'apôtre Paul parle très bien de cela quand il parle de ce gémissement de la création, de ce soupir de la création, de cette attente de la liberté que les fils de Dieu doivent apporter à la création. Et ce gémissement, cette attente, ce soupir, c'est en quelque sorte une prière cosmique,
que l'homme est appelé à rassembler, à élucider, à rendre consciente, et par conséquent, le fait même d'exister, dans la tradition orthodoxe, le fait même d'exister est porté par la grâce. Le fait même d'exister peut devenir, et déjà secrètement, si vous voulez, une célébration, une louange, une prière. Comment faire pour intérioriser cet état de plénitude que nous connaissons au moment de la célébration eucharistique ? Il y a une certaine méthode qui s'est précisée, que nous voyons apparaître très tôt. D'ailleurs, nous avons des textes des Pères du désert, et puis au Mont Sinaï, au 6e, 7e siècle, et ensuite assez précisé à Latos, pendant le Moyen-Âge, au 13e, 14e. C'est ce que nous appelons l'invocation du nom de Jésus, c'est-à-dire une invocation sur le rythme de la respiration. Elle est attestée en Occident, dans l'Occident ancien. Elle a dû passer, je pense, dans le premier monachisme bénédictin, est attesté par un homme qui s'appelle Saint Jean Cassien et qui venait d'Orient, qui a fait le lien entre l'Orient et l'Occident. Et la prière de Jésus, qui au début peut être simplement le Kyrie eleison, le Seigneur ait pitié, une prière très brève, ou bien Seigneur viens à mon aide, à toi de me secourir, qui est la parole du psaume, mais qui est devenue le plus souvent le Seigneur Jésus-Christ, aie pitié de moi, ou le Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu, aie pitié de moi, pécheur, avec amalgame de deux invocations évangéliques, si je ne me trompe, celle du publicain et celle de l'aveugle. Et alors cette prière peut être dite très simplement sur le rythme de la respiration. Il y a des contemplatifs, qui peuvent être dans des monastères, qui peuvent ne pas y être d'ailleurs, qui arrivent à tenir cette prière d'une manière quasi permanente. Il ne s'agit pas de réussir quoi que ce soit, il s'agit simplement de nommer celui qu'on aime, comme quand on est amoureux et qu'on répète le nom de la personne qu'on aime.
Je t'aime. Je ressens la joie sans laquelle le monde ne saurait subsister. Quand je roule dans l'abîme, c'est tout droit, la tête la première. Il me plaît même de tomber ainsi. Je vois de la beauté dans cette chute. Et du sein de la honte, j'entonne un hymne. Je suis maudit, vil et dégradé. Mais je baise le bas de la robe où s'enveloppe mon Dieu. Je suis la route diabolique tout en restant ton fils, Seigneur, et je t'aime. Je ressens la joie sans laquelle le monde ne saurait subsister. Dostoïevski, les frères Karamazov.
Si nous ne voulons pas que la parole de la prière soit du bavardage, il faut qu'elle soit une parole de silence, une parole qui s'enroule autour d'un axe de silence. Et déjà dans le chant liturgique, ça me paraît extrêmement important. La prière liturgique, d'abord, est une prière qui, dans l'Église orthodoxe, ne comporte pas d'accompagnement par un instrument. Il n'y a pas d'orgue dans les églises, n'est-ce pas ? L'instrument, c'est l'homme. L'instrument, c'est le souffle de l'homme, et l'homme doit chanter avec tout son souffle, depuis la profondeur de son être. Je me souviens de ce que me disait un jeune Français qui avait vécu dans des monastères serbes. et qui me disait, c'est très curieux, mais quand les moniales serbes chantent, on a l'impression qu'elles chantent à partir de leurs orteils. Donc il y a une espèce de mise en vibration de tout le corps. Et en même temps, dans cette prière liturgique, la musique n'a d'autre but que de faire entendre mieux la parole, et je dirais l'axe de silence qui est dans la parole, qui repose sur la parole, comme l'esprit repose sur le Christ. Le silence qui est ce mystère du monde à venir, n'est-ce pas, comme disait saint Isaac le Syrien. Je ne crois pas que dans la liturgie, je ne dis pas dans la prière personnelle, mais que dans la liturgie, il faille mettre du silence. Vous voyez ce que je veux dire? La liturgie orthodoxe a horreur du silence, dans ce sens-là. Un silence où tout s'arrête et on fait silence. Et c'est quelquefois très gênant parce que les gens ne savent pas se concentrer, leur esprit se met à flotter, ils sont livrés à toutes sortes d'associations d'idées, et puis on entend gronder l'intestin de son voisin, n'est-ce pas? Enfin, tout ça est assommant. Non, c'est une certaine qualité de la musique qui fait surgir le silence. C'est-à-dire que la musique, d'abord, c'est une parole musicale, c'est une parole rythmée. Donc si elle est rythmée, elle est brisée. Il faut briser la continuité du concept, il faut déconceptualiser le concept pour l'ouvrir sur le mystère. Et c'est le rythme qui le fait. Et le rythme introduit naturellement une sorte de respiration du silence dans cette parole. Et je crois que c'est très important. Et puis il y a aussi alors cette présence tout autour qui doit être enveloppante des fresques. Et des icônes, c'est la même chose, n'est-ce pas, les fresques et les icônes. Et les fresques et les icônes, ce sont des visages totalement transparents à la lumière divine et qui nous entraînent, à travers la communion des saints, dans la prière de cette personne qui est là, qui m'accueille et qui m'entraîne vers Dieu. C'est le mystère du visage pleinement révélé à ce moment-là. Et là aussi, les icônes sont silencieuses. Et c'est un silence fondamental. Je crois que l'icône, comme la musique liturgique, tout cela est une sorte d'incantation du silence. Mais il faut incanter le silence. Et alors après, dans la prière personnelle, on peut petit à petit découvrir ce qu'est le silence comme plénitude, et non pas comme absence de bruit, simplement.
Ô toi, l'au-delà de tout, comment te nommer d'un autre nom? Quel hymne pourra te chanter? Aucun mot ne t'exprime. Quel esprit pourra te saisir? Tu es au-delà de toute intelligence. Seul, tu es indicible, car tout ce qui se dit est sorti de toi. Seul, tu es inconnaissable, car toute connaissance est sortie de toi. Tu as tous les noms. Comment t'appellerai-je? Toi, le seul qu'on ne peut pas nommer. Grégoire de Nazianze, 4e siècle.
Comment commencer à prier? Comment vivre cette prière perpétuelle? On pourrait dire comment cesser de prier une fois que l'on a commencé. Alors est-ce que la prière ne contient pas au cœur même de cette relation ce besoin de retrait du monde ou d'un silence absolu?
Comment cesser de prier? Je voudrais aussi répondre dans une autre perspective. Parce que quand l'homme est en prière, et quand il s'enfonce, je dirais presque quand il s'enfonce d'une manière presque anonyme dans le mystère, dans la profondeur de Dieu, vient un moment où il ne prie plus. Il n'a plus besoin d'appeler celui qui est là. Et alors à ce moment-là, la prière cesse. La prière cesse parce que l'homme est envahi et submergé par la présence de Dieu, et cela va se traduire par une paix, par un silence, par une douceur, par l'embrasement du cœur. C'est le moment où justement notre intelligence, qui est généralement une intelligence dissociée, entre dans le cœur, s'unit au cœur. Et à ce moment-là, on ne prie plus. On ne prie plus parce que Dieu est là, vraiment, et on est submergé par lui. Et donc, si nous plongeons en Dieu, nous découvrons en lui non seulement le mystère de l'unité, mais aussi le mystère de l'autre. Et cela nous renvoie à l'autre. Et tous les mystiques chrétiens ont dit, si tu es au septième ciel, mais si quelqu'un frappe à ta porte, tu dois ouvrir ta porte. Si quelqu'un vient te demander un bol de soupe, tu dois lui donner un bol de soupe.
Hâte-toi de me secourir, Seigneur, car je ne trouve remède ni dans les hommes, ni dans les créatures. Quand il me faudrait suivre un petit chien pour trouver remède, je le ferai.
Il faut devenir un homme de prière, parce que vous ne découvrez l'autre comme une personne que par une révélation. Et là, c'est ce phénomène extraordinaire que nous trouvons dans la grande tradition monastique, particulièrement en Orient, mais aussi en Occident, je pense. C'est qu'un moine, par exemple, qui va passer 20 ans, 30 ans, dans le silence, dans l'obéissance, le travail manuel le plus humble, la prière perpétuelle, ou bien se retirer totalement au désert, devenir un reclus, ne voir personne. Par exemple, Saint Séraphin de Sarov, qui vivait en Russie au XIXe siècle et qui a passé 1000 jours et 1000 nuits sur une pierre, comme un stylite, à invoquer le nom de Jésus, puis qui a vécu dans un ermitage, se prosternant devant les gens qui venaient le voir et puis s'enfuyant, refusant de parler, puis qui a été reclus dans le monastère pendant des années. Eh bien, vient un moment où ces hommes, à commencer par Antoine le Grand, n'est-ce pas, au IVe siècle, reçoivent l'ordre intérieur d'ouvrir leurs cellules et de laisser les autres venir vers eux. Et alors, ils ont le charisme de la sympathie, au sens profond du mot, c'est-à-dire sympathie, compassion, en grec ou en latin, ça veut dire la même chose, cette possibilité de sentir avec l'autre, d'aimer avec l'autre. Et ils ont ce discernement des esprits qui leur donne une vraie paternité spirituelle, c'est-à-dire qu'ils sentent, ils sont devant l'autre à la fois totalement ouverts à l'autre et en même temps totalement ouverts à Dieu. Et Dieu leur révèle le mystère de l'autre. Et ils savent déceler la souffrance secrète, l'abcès qui n'a jamais été vraiment débridé. Et ils savent éveiller ceux qui sont des somnambules, ils savent mettre en route. Et on va vers eux, comme c'était le cas dans le désert d'Égypte, n'est-ce pas, au premier siècle, avec cette parole, « Père, dis-moi une parole de vie ». Et ils disent une parole de vie, ou ils ne disent pas, quelquefois, puisqu'on raconte aussi cette histoire d'un de ces vieux spirituels qui avait ouvert sa cellule. Alors tout le monde venait, et il y avait constamment des gens qui venaient poser des questions. Et puis il y avait un jeune homme qui venait et qui ne posait jamais de questions. Et un jour il lui a dit, mais toi, tu ne m'as jamais rien demandé. Et le jeune homme lui a dit, mais père, il me suffit d'être près de vous. Et, parce qu'effectivement, l'homme qui est arrivé à ce degré de transparence intérieure est un homme qui rayonne une certaine lumière, qui rayonne une certaine joie. Et il suffit d'être à côté de lui, on le sent.
Que seulement je fasse de ma vie une chose simple et droite, pareille à une flûte de roseau que tu puisses emplir de musique.
Je crois que la prière porte toute existence. À mon avis, il n'y a pas un être humain qui, d'une certaine façon, ne connaisse une expérience de prière. Mais il ne sait pas. Et il ne sait pas le nommer. Il ne sait pas le déceler. Mais écoutez, les jeunes qui, à notre époque, partent sur les sentiers de grandes randonnées, ou bien qui se jettent dans la mer l'été, ou qui marchent dans le vent, ou qui allument un feu le soir et qui le regardent monter, mais ce sont des formes de prière. Un homme et une femme qui vivent un vrai amour, une profonde tendresse où s'intègre toute la puissance, toute l'immensité de la vie, où elle se fait vraiment intérieure à leur rencontre, où elle devient un langage de leur rencontre. Ils vivent une forme de prière et déjà le monde commence à se transfigurer entre eux. Dans ce qu'on appelle l'érotisme contemporain, je crois qu'il y a la quête d'une sorte d'expérience mystique. Comme disait Charles Péguy, n'est-ce pas, quand il fait parler de Dieu, il dit « Ah, ces hommes, ils sont tellement agités, ils se croient tellement importants, ils se prennent tellement au sérieux. » Mais quand ils s'endorment, n'est-ce pas, ils s'abandonnent. Et je crois que l'expérience du sommeil profond est aussi une expérience de prière, une sorte d'expérience visionnaire. Donc, je crois que la prière, toute notre vie, n'est-ce pas, est taillée dans le tissu de la prière. Seulement, le problème, c'est qu'il faut autant que possible que cette prière devienne consciente. Et alors, c'est là que nous trouvons le problème des religions, le problème des révélations, parce que sinon, et je crois que c'est la tragédie, et notamment la tragédie du monde contemporain, l'homme porte en lui, et c'est sa nature la plus profonde, c'est son désir le plus profond, la soif de l'absolu, la soif de l'éternité. « Car je t'aime, ô éternité », disait un philosophe qui se croyait athée, c'est pas au siècle dernier, et qui a développé une sorte de prière de la vie. Mais alors, à ce moment-là, s'il n'y a pas la réponse de la révélation, c'est une tragédie, parce que cette soif d'absolu va buter sur le mur de la finitude, va buter sur le mur du néant et de la mort, et alors elle risque de refluer sur l'homme et de devenir folle. Je crois qu'un des aspects de notre société, c'est cette espèce de prière folle, de soif d'absolu, qui bute sur le nihilisme contemporain et qui reflue alors en toutes sortes d'idolâtries.
Quand les dieux désirent nous punir, ils exaucent nos prières. Oscar Wilde.
Si l'homme prie, s'il est fait pour être prière, n'est-ce pas ? S'il y a en lui ce dynamisme, c'est pas pour rien. En général, nous avons une bouche pour manger et nous trouvons de la nourriture pour mettre dans notre bouche, n'est-ce pas ? Bon, mais si tout notre être, si ce cœur intelligent que nous portons en nous est là pour connaître l'absolu, c'est sans doute qu'il y a quelque chose ou quelqu'un qui répond. Et alors, les religions nous disent que quelqu'un a répondu, effectivement, qu'il y a ce que nous appelons la révélation.
Où êtes-vous caché, ô bien-aimé? Et pourquoi m'avez-vous laissée gémissante? Comme le cerf, vous avez fui après m'avoir blessée. Je suis sortie après vous en criant, et vous êtes partie. Pasteur, vous qui passez là-haut par les bergeries jusqu'au sommet de la colline, si par bonheur vous voyez celui que j'aime le plus, dites-lui que je languis, que je souffre et que je meurs. Saint Jean de la Croix. Yahvé, mon Dieu, je crie le jour, je gémis la nuit devant toi. Que ma prière vienne jusqu'à toi, prête l'oreille à mes sanglots. Car mon âme est rassasiée de maux, et ma vie
est au bord du Shéol. Déjà compté comme descendu dans la fosse, je suis un homme fini. Exclu parmi les morts, comme les tués qui vivent dans la tombe, eux dont tu n'as plus souvenir et ils sont retranchés de ta main. Tu m'as mis au tréfonds de la fosse, dans les ténèbres, dans les abîmes. Sur moi pèse ta colère et tes houles, tu les déverses. Tu as éloigné de moi mes compagnons, tu as fait de moi une horreur pour eux. Je suis enfermée et ne puis sortir. Mon œil est usé par le malheur. Je t'appelle, Yahvé, tout le jour. Je tends les mains vers toi. Pour les morts, fais-tu des merveilles. Les ombres se lèvent-elles pour te louer ? Parle-t-on de ton amour dans la tombe, de ta fidélité au lieu de perdition ? Connaît-on dans la ténèbre tes merveilles et ta justice au pays de l'oubli ? Et moi, je crie vers toi. Le matin, ma prière te prévient. Pourquoi repousses-tu mon âme ? Caches-tu moins de moi ta face ? David, psaume 88.
En hébreu, le mot qui désigne le sacrifice, au sens vétérotestamentaire, c'est le mot korban, signifie également approche, parce que s'approcher de Dieu, c'est faire un sacrifice du cœur, si vous voulez, n'est-ce pas ? Qui d'ailleurs, dans le temple autrefois, accompagnait le sacrifice proprement dit, que ce soit un sacrifice d'animaux, de blé, d'huile ou de pain, ou d'encens. Eh bien, s'approcher de Dieu, se dire lit karev, se faire plus proche, se faire un sacrifice vers Dieu. Mais la prière au sens strict du terme, qu'est-ce que cela veut dire ? Dans la tradition talmudique. Quand on veut quelque chose en général, quand un homme sur la terre veut quelque chose, il l'obtient par le travail. Alors, s'il l'obtient par le travail, il n'a pas besoin de le demander puisqu'il l'obtient par ses propres moyens, par sa volonté. Donc, ce qui est obtenu par le travail ne peut pas, dans la tradition talmudique et biblique, tomber dans l'ordre de la prière. Sinon, il y a confusion et presque transgression.
Claude Vigée.
On demande donc par la prière ce qu'on ne peut pas obtenir par le travail. C'est la première chose à bien comprendre. Le travail de la main, pour obtenir ce qu'on veut, eh bien, qu'est-ce qu'on peut demander pour le travail de la main ? On peut demander à Dieu de nous donner les instruments pour ce travail. Mais le reste dépend de nous. La prière, c'est donc demander quelque chose qu'on ne peut pas obtenir par soi-même. Il y a donc un élément de précarité et d'aléatoire dans la prière. Le mot prière, tefila, vient d'une racine hébraïque. Prier, par exemple, veut dire le hitpalel. Ça veut dire se faire entrer dans une sorte de travail qui est un jugement.
L'humilité donne à tout homme, fût-ce à celui qui désespère dans la solitude, les relations les plus solides avec son prochain, et cela immédiatement, à condition toutefois qu'elle soit constante et totale. Elle peut cela parce qu'elle est le vrai langage de la prière, adoration et communication intense en même temps. La relation avec le prochain est celle de la prière. La relation avec soi-même est celle de la poursuite du but. C'est dans la prière qu'on va chercher la force nécessaire à la poursuite. Kafka.
Prier veut dire demander que soit accordé maintenant ce qui serait peut-être dû ou accordé dans ce monde futur qui serait le monde paradisiaque, qui serait le monde de la rédemption sur la terre. Anticipation de ce que l'on aura ou de ce qui est déjà à soi, mais seulement dans l'absolu. Donc on demande un morceau d'absolu, si je puis dire. Et ceci est évidemment extrêmement dangereux, n'est-ce pas ? Et qui oserait demander cela ? Il y a une certaine pudeur, n'est-ce pas, à dire « donne-moi maintenant mon absolu ». Une pudeur et une crainte. Dans la tradition talmudique, il est dit que Dieu ne laisse pas prier le serpent. Le serpent qui a égaré Adam et Ève, eh bien la punition réelle qui lui est donnée, Dieu lui dit « toi tu mangeras la terre ». Puisque tu manges la terre, tu n'as rien d'autre à demander, mange. Tu es puni d'avoir séduit Ève et Adam. Mange la terre, c'est-à-dire la nature. Tu vas ramper par terre, mais ne viens surtout pas me demander plus que la nature. Puisque tu as séduit Ève et Adam en faisant briller à leurs yeux le fameux fruit, et en leur faisant croire que ce fruit est un fruit de la nature, alors que c'est un fruit surnaturel, et par là tu les as fait tomber, pécher, eh bien toi tu es réduit à la nature. Alors ne viens jamais prier. Tout ce qui est du côté du serpent ne peut pas prier. Dieu refuse la prière du serpent. C'est la marque même du serpent.
Seigneur, ouvre mes lèvres pour te dire ta louange. Sois attentif à mon murmure, à mes paroles, à ma prière. Dans l'abondance de ta miséricorde, efface mes péchés. Car tu t'es acquis mon être. Tu m'as revêtu de peau et de chair. Tu m'as soutenu d'os et de muscles. Tu m'as fait le don de vie et d'amour. C'est pourquoi je vais de toi vers toi. Je fuis de toi en toi. Je me réfugie de ta justice en ton amour. Je me sauve de ta sévérité en ta miséricorde. Baïa, 11e siècle.
Cette sorte de prière, qui est la vraie prière, la tefila, au sens formel du terme. Nous lisons dans un psaume, Dieu parle à l'homme, et Dieu dit, avant même qu'il ne m'invoque, moi je répondrai. C'est tout à fait étonnant. Donc, Dieu répond par anticipation avant que l'homme ne parle, avant même qu'il ne prononce une parole, il répond. La Mishnah dit, la partie la plus ancienne du Talmud dit, que le face-à-face avec Dieu, qui est la prière, dans cette attitude de jugement, n'est-ce pas, dont j'ai parlé tantôt, doit se faire, comme dit le texte, « bekoved rosh », c'est-à-dire, littéralement, en gravité de tête, ou en lourdeur de tête, ou en glorification de tête. L'idée de gloire, de lourdeur, de pesanteur, de gravité, tout ceci est lié dans cette expression « koved rosh ». Ça veut dire « sérieux » aussi, ça veut dire « sérieux ». La prière est une forme de travail. Parce que dans l'idée de prière tefila, il y a non seulement jugement, mais un travail de mise en jugement, une avoda. Et on appelle en hébreu, tout le service du temple et la synagogue s'appelle avodat kodesh, c'est-à-dire littéralement le travail du saint.
Alléluia. Louez Yahvé depuis les cieux. Louez-le dans les hauteurs. Louez-le, tous les anges. Louez-le, toutes ses armées. Louez-le, soleil et lune. Louez-le, tous les astres de lumière. Louez-le, cieux des cieux et les eaux de dessus les cieux.
Ki boy shavat sor olamim.
Il y a un texte biblique qui dit « Prosternez-vous devant Dieu dans la splendeur de la gloire divine, dans la splendeur de la sainteté. » Mais ça, c'est trop beau. Ça aussi, c'est rejeté par le Talmud. Se prosterner devant Dieu dans la splendeur de sa sainteté, ça, c'est un sentiment dangereux, car il y a risque du culte panthéiste de la nature. La splendeur de Dieu est aussi dans la nature. Alors se prosterner devant le soleil, se prosterner devant un paysage, se prosterner devant la terre et les étoiles, on glisse vers le panthéisme, vers l'idolâtrie.
Louez Yahvé depuis la terre, monstres marins et tous les abîmes, feu et grêle, neige et brume, souffle d'ouragan, l'ouvrier de la parole. Montagnes, toutes les collines, arbres à fruits, tous les cèdres, bêtes sauvages, tout le bétail, reptiles, oiseaux qui volent. Rois de la terre, tous les peuples, princes, tous les juges de la terre, jeunes hommes, aussi les vierges, vieillards avec les enfants. Qu'ils louent le nom de Yahvé, sublime est son nom. Lui seul, sa majesté par-dessus terre et ciel. David, psaume 148.
La tradition nous enseigne également que la lumière divine qui est toujours prête dans le silence et dans l'obscurité, la lumière cherche son vase. L'homme étant le vase, naturellement, l'homme ou la femme. Et plus le vase est grand, c'est-à-dire plus le vase s'est demandé beaucoup, dit le Talmud, c'est très joli, plus il est grand, c'est-à-dire plus il a soif, plus il veut de Dieu, et plus la lumière y pénètre. Ceci montre l'importance de cette attitude, n'est-ce pas, d'expectative silencieuse et d'aspiration qui doit précéder la prière parlée. Peu à peu, le vase devient, en vibrant et en absorbant, le vase devient capable d'arrêter en soi-même le rayon de la lumière d'en haut. Et en arrêtant ce rayon, le vase se transfigure, il devient lui-même, pour un bref instant, comme le séjour de la présence sur la terre, avec tous les risques que cela comporte pour un vase, car un vase trop plein peut se briser. Et le vase, c'est notre individualité, c'est notre âme personnelle.
Hâte-toi de me secourir, Seigneur, car je ne trouve remède ni dans les hommes, ni dans les créatures. Quand il me faudrait suivre un petit chien pour trouver remède, je le ferai.
Quelle attitude faut-il avoir avant de se mettre à prier? Quel doit être le contenu de la gravité de la tête? Eh bien, la voilà. Servez Dieu dans la crainte et réjouissez-vous dans le tremblement. C'est un texte de la Bible, texte apparemment contradictoire. Servez Dieu dans la crainte, bon, et réjouissez-vous dans le tremblement. Commentaire des sages du Talmud, là où est la joie, que soit aussi la crainte. Et ce n'est pas du tout d'avoir la trouille devant Dieu, n'est-ce pas ? C'est une absurdité. Servez Dieu dans la crainte, dans ce sens. Servez Dieu dans le frémissement d'émotion, dans le frisson.
אשר קדישה לו במצוותיו יצבנו לשמוע כל שופר.
Notre temple est détruit. Point de prêtre pour assurer le service. À cause de nos péchés, le feu sacré et l'encens ont cessé. Mais il nous reste la prière et la supplication. Exauce-nous, toi qui réserves la miséricorde jusqu'à la millième génération. Rituel de Kippour. Le but de la prière est de te trouver toujours dans l'état qui était le tien pendant la prière. Que tu sois endormi ou éveillé, écrivant ou lisant. Dans tous les états, tu ne dois pas être sans le souvenir de Dieu, afin que tu sois continuellement en prière. Ces paroles et ce silence, manger, dormir, être en colère, pardonner, et tous les états semblables sont comme le tour que fait la roue du moulin. Sans doute, ce tour provient-il de l'eau, car le moulin a fait l'expérience d'un régime sans eau. S'il croit que tous ces tours proviennent de lui-même, c'est là pure ignorance et incompréhension. À chaque instant, expose donc tes vœux et ne sois pas sans te souvenir de Dieu, car ce souvenir donne la force aux ailes et aux plumes de l'oiseau de l'âme. Si ce but principal est atteint, c'est lumière sur lumière. Rumi, le livre du dedans, 13e siècle.
Sous
Toute personne qui voyage dans un pays arabe est sensible à cette prière lancée par le muezzin du haut du minaret, et comme si la religion musulmane, plus qu'une autre, avait besoin de manifester chaque jour ce lien multiple, essentiel, quotidien, qui unit l'homme à la divinité.
Je crois que c'est permanent au niveau du contact entre chrétienté et pays musulman, parce que les mêmes paroles ont été presque dites par saint François d'Assise, qui a fait un voyage en Égypte, comme vous le savez, pour réconcilier chrétiens et musulmans, et qui, de retour en Italie, a ordonné aux fidèles de marquer leur temps de prière plusieurs fois par jour, comme font les musulmans.
Khaled Roumeau.
Évidemment, il n'a pas institué l'appel à la prière, mais il a par exemple conseillé de battre un tambour. Et contrairement à la lecture moderne qu'on fait de l'islam, à savoir que Mohammed n'est qu'un réformateur social, moi je crois que la première chose à laquelle le prophète a appelé, c'est la foi en Dieu, la prière, croire au jugement dernier, à l'autre vie, choses qui paraissent enfin toutes de l'ordre entre guillemets métaphysique. La prière serait une sorte de tension de cet être oublieux de son identité vers l'être qui, n'est-ce pas, attire toutes ses passions, tout son amour existentiel, bien sûr.
L'être oublieux voulait dire l'être qui a oublié qu'il y avait une divinité en lui.
Ah, dire qu'il y avait une divinité en lui, c'est une chose qui ne peut pas être reçue en islam. Mm-hmm. Parce que l'homme est en Dieu, mais Dieu n'est pas en l'homme.
Et moi, ce que j'étais très sensible à des paroles des mystiques, bon, des soufis, qui disaient à un degré de relation d'amour qu'est la prière, il y a fusion. Et d'une certaine façon, je dirais que la prière est le lien, bien sûr, entre l'homme et la divinité, mais d'une certaine façon aussi, l'homme lui-même serait la prière de Dieu. Il y a union, il y a création double dans cette relation. Il n'y a pas de différence entre moi qui prie Dieu et Dieu qui me prie ou qui m'incante, à la limite.
La prière est une théophanie par excellence. À ce titre, elle est créatrice. Mais précisément, le Dieu qu'elle prie parce qu'elle le crée, c'est le Dieu qui se révèle à elle dans cette création. Henri Corbin.
En général, il y a le secret, et il y a l'intimité entre l'homme et Dieu. Il n'est pas possible de tout révéler. Il n'est pas bon de tout dire. Il est important de témoigner, et si on ne le fait pas, on va à l'encontre de ce que Dieu nous demande, mais on ne peut pas tout dire.
Et peut-être que les nouvelles prières, enfin certaines prières que l'on recherche ou qui sont plus sensibles à notre époque, sont des prières qui spontanées, des prières du cœur, qui ne sont pas donc des mots écrits ou répétés.
J'avoue aussi que dans la pratique de la communauté musulmane, il y a ce danger. Mais il faudra peut-être voir de quelle en est la provenance. Pourquoi est-ce qu'on tombe dans cette maladie? Je dis bien une maladie du culte, une maladie du rite. Peut-être parce que l'homme n'a pas suffisamment approfondi sa relation à Dieu. Une relation personnelle et qui est vécue à tout instant, et pas seulement au moment de la prière rituelle. Et dans l'islam, comme dans le christianisme, on a toujours mis la justice, la vérité, l'amour au niveau des rapports humains avant le culte ou le rite. Parce qu'après tout, quand un homme prie, il rend service à lui-même, il se ressource auprès de Dieu. Mais s'il a lésé, c'est semblable. C'est quelque chose qui le rend enlevé à eux, il s'agit de leur bien à eux. L'homme, quand il prie pour lui-même. Il ne prie pas pour les autres, il ne prie pas pour Dieu parce que Dieu n'a pas besoin des hommes. C'est les hommes qui ont besoin de lui, il prie pour son propre salut. Je ne dis pas que c'est un acte égoïste, mais je dirais que c'est l'homme qui en bénéficie.
Alors comment retrouver un autre sens de la prière? Une prière donc plus désintéressée?
Avant la prière, je crois qu'il faut réexaminer la foi. Et la foi paraît toujours acquise, paraît, je dis, mais ce qui n'est pas du tout évident.
Vous faites ce lien nécessaire, obligatoire, entre prière et foi.
Oui.
Et je me demande, moi, si il y a nécessairement ce lien, si la prière est nécessairement l'expression d'une religion, qu'elle soit musulmane, chrétienne ou juive, et si elle n'est pas une façon d'être, enfin une posture de l'être ou un frémissement de l'être.
Oui, et bien sûr, mais quand on dit religion, cela implique foi, et la foi se réfère à Dieu. Évidemment, il ne s'agit pas de récupérer tout ce monde qu'on appelle de nos jours agnostique ou athée, mais un homme qui croit en Dieu croit que Dieu a créé tous les hommes. Il ne peut pas se dire, de peur de récupérer, Dieu a créé seulement ceux qui croient en lui. Bon, mais il a quand même besoin de s'expliquer à lui-même, non pas pour expliquer à ceux qui ne croient pas en Dieu. Pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui ne perçoivent pas Dieu? Pour moi, il y a une notion que Bergson a bien approfondie, c'est cette notion de conscience cognitive. Et la conscience vécue et la conscience cognitive. Je ne sais pas si c'est Bergson ou un autre, enfin bref. Et, c'est-à-dire, on peut vivre des choses dont on n'est pas conscient. Et à un stade ultérieur, on devient conscient de ce qu'on a vécu et on comprend quelle était la nature de ces flux qui nous traversaient. Et je crois que quand vous dites frémissement de l'être, moi je veux bien. Et tout homme, poète, artiste, pas d'une manière professionnelle, parce que tout être humain est capable de créer, vit des états d'âme pareils. Sartre lui-même parlait de certains moments privilégiés, et Simone de Beauvoir aussi. Alors quel est le secret, quelle est la nature de ces moments privilégiés? Là je crois que seul Dieu est en mesure de répondre. Moi, je ne sais pas. Pour les autres, je sais pour moi-même.
Je me demande en effet quelle nuance, qu'est-ce qui distingue en effet certains états privilégiés de la création ou de la joie, tout simplement. On a envie de danser, on peut danser, cela peut être une forme de prière. Comme écrire peut être une forme de prière. Et ceci sans contexte religieux.
Certainement. Mais si vous dites ça à un athée ou un agnostique, il refusera. Je prends des réserves par respect de leur propre liberté de définition et de détermination. Alors que moi, qui crois en Dieu, je suis tout à fait d'accord avec vous. Et je vois les choses ainsi. Et d'ailleurs, je hais la médiocrité en matière de foi. Et je crois que ça va à l'encontre de la foi. Que l'homme aille vers Dieu avec sa médiocrité en refusant de la reconnaître, et de lui demander de le combler, je crois que c'est quelque chose qui est contraire, n'est-ce pas, à l'esprit de la foi.
Il me semble que la prière est toujours une façon de manifester la présence, donc la présence divine, que celle-ci soit actuelle, actuellement vécue, ressentie, ou alors rompue, ou voilée, ou retrouvée. Mais c'est toujours dire manifester la présence.
Quand on va prier, c'est pour se sentir proche. Mm-hmm. Ensuite, manifester la présence divine, moi je dirais plutôt témoigner, parce qu'il y a moins de risques de confusion. Témoigner, ce sont les fruits de la prière. Mais c'est spontané. Et on a des vieillards, hommes et femmes, dans notre communauté, dont les visages sont vraiment lumineux. Et c'est le fruit de la prière, mais qui est en harmonie avec l'action, bien sûr.
Dans la religion musulmane, le silence a une moindre importance, par exemple, que dans d'autres religions. La parole est toujours capitale.
Oui, la parole véridique. Mm-hmm. Vu que le Christ lui-même est appelé Verbe de Dieu dans le mm-hmm. Coran, comme vous l'appelez dans le christianisme. Mm-hmm. Mais quand je dis la parole véridique, c'est-à-dire c'est la parole qui remet en question. Et j'aimerais là dire que le mot parole, verbe, et le mot blessure en arabe se disent de la même manière. Alors il faut que l'homme accepte de se faire blesser par la parole de Dieu, afin qu'elle le pénètre, et que cette parole lui soit révélée au niveau de l'intime, ou que ce soit une autre personne ou une autre créature qui la lui transmet.
Alors la prière serait la brèche et la blessure, la marque du divin.
En quelque sorte, si cette prière prédispose l'homme à recevoir le verbe, à recevoir le mot adéquat, s'il ne se bouche pas les oreilles et le cœur. Dans l'islam, c'était toujours le cas. Le corps a toujours prié. Évidemment, on ne dit pas pourquoi. Nous vivons dans un siècle qui veut tout dire, n'est-ce pas? Tout expliquer, tout éclaircir. On ne dit pas pourquoi le corps doit prier, mais le musulman, quand il prie, le long des années, il découvre pourquoi il est bon que son corps prie avec son cœur. Il m'est arrivé on a différents sentiments qui nous traversent quand on prie. Mais je ne dirais qu'un seul, et la pudeur n'est pas de rigueur dans de telles situations, parce que je témoigne de ma prière. Quand on se prosterne, et il nous arrive, enfin il m'est arrivé de me voir sur le globe, si vous voulez, accroupi à la surface de la terre, et de sentir que la terre voyage. C'est quelque chose. La terre voyage vers un destin que nous ignorons, enfin d'une manière précise, quant à la date et à l'endroit, mais que nous connaissons, parce que c'est la promesse de Dieu. La fin de l'univers n'est pas quelque chose d'angoissant, de catastrophique pour un croyant, c'est un rendez-vous. Alors sentir que quand on prie, on fait ce voyage, c'est quelque chose de, je ne dis pas d'exaltant, mais c'est quelque chose de, je ne sais pas, de sécurisant, mais d'une bonne sécurité. Et il y a plein d'états d'âme ou d'états de corps, je dirais, que l'on vit en faisant la prière.
La prière, c'est-à-dire le désir.
Oh,
Je me souviens de cette histoire que me racontait ma mère quand j'étais petit. C'est un berger qui voulait prier, mais qui ne savait pas quelles étaient les paroles adéquates. Et il disait « Je mets ma canne devant moi et je prie ». C'était ça le texte qu'il récitait. Et alors un jour, Moïse passe et le pasteur reconnaît en lui un homme de Dieu. Alors il lui demande de lui apprendre à prier. Alors Moïse lui apprend quelques versets et du livre, et quelques invocations et s'en va. Le pasteur essaie de s'exécuter, mais il a tout oublié. Il court derrière Moïse, et quand il le rattrape, Moïse lui dit, alors, qu'est-ce qui t'arrive? Il dit, j'ai tout oublié. Alors il lui dit, ça ne fait rien, prie comme tu priais avant.
Que seulement je fasse de ma vie une chose simple et droite, pareille à une flûte de roseau que tu puisses emplir de musique.
Quand on sort du travail, je considère le contact physique entre les hommes qui se côtoient dans le métro, les rues ou le bus. Moi, je dirais, et c'est peut-être valable pour tout le monde, il y a une sorte d'allergie au corps des autres. Tellement on se sent encombré les uns par les autres. Alors qu'à la mosquée, j'ai senti une fois combien il est agréable de se sentir serré physiquement des deux côtés, de sentir l'épaule des voisins, de s'incliner ensemble, de se prosterner ensemble. Il y a une sorte de sécurité physique qui rejaillit sur la sécurité morale. Il y a aussi une sorte d'harmonie, par exemple 200 personnes dans le même local qui sont tournées vers la même direction, qui récitent les mêmes textes. C'est quelque chose de fantastique de point de vue harmonie. Et je sais que dans la vie, en communauté, on a besoin d'harmonie au niveau du groupe. On dit de nos jours le groupe, on ose plus dire la communauté. C'est quelque chose que je n'ai vécu que dans des concerts de musique. Par exemple, il suffit que le musicien s'arrête pour que le brouhaha commence. Et là, on évalue la qualité du silence. Là, je suis peut-être d'accord avec vous que le silence a son importance. Quand on prie, c'est vrai, on récite des mots, mais on se tait aussi. On se tait. Et quand la prière du vendredi se termine et que les gens recommencent leur vie normale, là on apprécie les moments de silence que nous avons vécu ensemble.
Il y a dans la prière une opération magique. La prière est une des grandes forces de la dynamique intellectuelle. Il y a là une récurrence électrique.
Un jour, un ami est arrivé chez moi à l'heure de la prière et moi j'ai tenu à la faire parce que j'en avais besoin. Il faut préciser que la prière n'est pas un devoir, c'est un besoin. Et ne la fait que celui qui en sent le besoin. Sinon, ce sera une sorte de corvée qui engendre des sentiments de culpabilité. Et chaque fois que je rencontre des amis musulmans qui me disent qu'ils vivent ces états d'âme, enfin, je me permets de leur dire « abandonnez pour un certain temps et si vous sentez le besoin de prier, alors à ce moment-là, priez. Mais ne vous sentez pas obligé de le faire par simple devoir. » Alors cet ami, il m'a dit, est-ce que tu ne crois pas qu'il serait mieux d'investir au niveau des rapports humains que de perdre ton temps à faire des choses formelles? Enfin, il aurait mieux fait de me demander pourquoi je prie. Et à ce moment-là, j'aurais dit la vraie réponse. C'est pourquoi je tiens à dire quel est donc l'aspect intérieur de la prière. Qu'est-ce qui pousse un homme à prier, au fond? Je crois que pour un certain temps, l'homme est nourri d'une manière pour lui inconsciente, nourri par Dieu. Dieu lui donne le désir de vivre. Mais à partir d'un certain moment, il sent tarir les choses en lui. Alors à ce moment-là, ou bien il s'angoisse et il se sent livré à ses propres limites, d'où suivent suicide, boissons, toutes sortes d'autres évasions. Ou bien il se rend compte que la source de vie ne jaillit pas en lui-même, de lui-même, mais qu'elle est ailleurs. Et là, il retrouve sa propre dimension qu'il ne reniera pas. D'ailleurs, il acceptera que Dieu est plus grand, qu'il est créateur, et il lui demandera de le ressourcer de nouveau. Et il n'y a aucune honte à cela. Enfin, ontologiquement parlant, au départ, on résiste. C'est pourquoi le texte que j'ai dit tout à l'heure précise que la prière est énorme. Elle est difficile, sauf pour ceux qui révèrent Dieu en leur cœur. Parce que ces gens-là daignent se courber devant Dieu. Et ce n'est pas une humiliation. C'est un geste de reconnaissance, de respect, de vénération, d'amour même. Mais ceux qui trouvent la source de leur vie en eux-mêmes et qui refusent de se ressourcer ailleurs, pour eux, c'est dur de plier les genoux, au sens physique et moral, bien sûr.
Ne me livre pas aux bêtes. Ne dénoue pas ton pied du mien. Et si le jour monte plus haut que toi, reste l'abri de ma noirceur.
L'autre scène, où les vivants et les dieux.
Et l'islam se dit toujours la religion de l'innéité, c'est-à-dire la foi est innée en l'homme. Et les prophètes ne viennent que pour rappeler à l'homme ce qu'il connaît déjà ou ce qu'il a oublié.
L'homme qui fait sa prière le soir est un capitaine qui pose des sentinelles. Il peut dormir. Baudelaire.
La prière par Jacqueline Kellen et Olivier Clément, écrivain. Jean-Pierre Dubois-Dumay, journaliste. Khaled Roumeau, étudiant. Claude Viget, écrivain. Texte lu par Anne Le Foll, Jacqueline Taous, Laurence Jeanneret, Frédéric Cantrel. Réalisation Michel Abgral.
Cette émission a été diffusée pour la première fois le 16 février 1981. Vous pouvez la télécharger et la réécouter à la page des nuits sur le site franceculture.fr.